Chapitre 2. Justine Loriot avait vu, sans prendre ombrage, l'amitié qui naissait entre Denise et Charlotte. Peu lui importait cette sympathie instinctive qui attirait l'une vers l'autre les jeunes filles. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était les préoccupations de Loriot et son trouble devant Charlotte. La présence à son foyer de la fille de célibataire, en occupant la haine de la paysanne, la distrayait pour un moment de tout ce qui toucherait à son fils. Le séjour de Charlotte à la boucherie avait produit une révolution profonde dans l'âme du jeune homme. Il ne se l'était pas avoué, tout d'abord, ne s'en rendait pas compte. Dans les premiers temps, il avait ressenti comme une grande lassitude, un dégoût du travail, une aversion pour les absences fréquentes et les petits voyages auxquels la profession l'obligeait. Puis bientôt, comme s'il eût voulu s'étourdir, il s'était donné un mal énorme, redoublant d'activité, multipliant ses voyages, étendant sa clientèle. Il n'était jamais si heureux que lorsque, n'ayant plus rien à faire, il s'habillait dans l'après-midi vers 4 heures, non pour sortir, mais pour rester dans la boutique auprès de Charlotte, à causer de 1000 choses insignifiantes dans lesquelles revenaient sans cesse, comme une sorte de refrain régulier et nécessaire, les soins qu'il fallait donner à la boucherie. Dans ces moments-là, il approchait d'une chaise de Charlotte et s'asseyait. La jeune fille était derrière son petit comptoir, lisant ou travaillant. Quand arrivent 3 ou 4 heures, les clients sont rares dans les boucheries. À peine de temps à autre, un retardataire. L'étal était vide de viande. Sur le marche-barbre blanc, seulement les fleurs restent. Comme il faisait très chaud, un grand store vert flottait accroché au barreau de fer sous un autre store gris et rouge, immobile celui-là. Cela entretenait une fraîcheur et une demi-obscurité dans la boucherie. Presque toujours, Nabote était auprès d'eux, mais sa présence ne les gênait pas, au contraire. Cela enlevait à Charlotte tout l'embarras d'un tête-à-tête. Quant à la mère, sa place ornière était à l'arrière-boutique, assise sur une petite chaise de paille très basse, auprès de la porte qui donnait dans le jardin. Quelquefois, Loriot se levait, s'accoudait sur le rebord de la cellule vitrée derrière laquelle se trouvait Charlotte, et, sous prétexte de consulter ses livres de comptes, passait la tête à travers le vasistas mobile. Il touchait presque la jeune fille. Celle-ci tirait ses livres et à son tour se penchait un peu pour lui montrer du bout de son ongle rose ce qu'il désirait. Un parfum délicieux et doux s'exhalait de sa personne et Loriot, en le respirant, sentait qu'il lui montait à la tête et le grisait. Alors il balbutiait quelques mots pour garder une contenance. Mais ce qu'il disait, il n'en savait rien. Il lui arrivait dans ces moments, sous prétexte d'examiner de longues colonnes de chiffres, de se taire. Il restait des minutes ainsi, et Charlotte elle-même, en comprenant le trouble de ce beau et grand garçon, avait du vague dans la tête, une douleur sur les paupières et se laissait aller à ne plus penser à rien. Et ce qui leur faisait bien comprendre à tous les deux le sentiment qui les poussait l'un vers l'autre, ce qui rendait leur intimité plus complète, ce qui était enfin comme un aveu public et irréfléchi de l'amour qui naissait en eux, c'était le mouvement de frayeur qui les écartait, les éloignait, les faisait rougir au moindre bruit du dehors, au moindre mouvement de la vieille reculant ou avançant sa chaise au fur et à mesure que le soleil l'incommodait dans l'arrière-boutique. Et quand, après s'être écartés ainsi, leurs yeux venaient à se rencontrer aussitôt, comme pour se dire « Bon, ce n'était rien, nous nous sommes trompés. Il y avait dans leur regard quelque chose de tendre et d'indécis, un bonheur inavoué de ce rapprochement de 5 ou 6 secondes. Naboth les avait devinés. Elle feignait souvent de dormir pour ne pas les gêner, surtout pour les mieux voir à travers ses cils noirs abaissés. Et malicieuse, elle ne retenait pas un sourire devant la frayeur de son grand frère qu'elle provoquait parfois. Il ne pouvait rester longtemps avec toutes ces émotions qui les assaillaient au moindre regard, à la moindre allusion, sans s'avouer qu'il s'aimait. Ce fut un soir où ils se croyaient seuls qu'ils se firent cet aveu. Charlotte s'apprêtait à partir comme tous les jours et en souriant tendait la main au grand Loriot en lui disant au revoir. Loriot prit la main et attira la jeune fille à lui. Elle rougit mais ne résista point. Alors il lui entoura la taille de son bras et brusquement, sans qu'il eût le temps de se défendre, lui mit un baiser dans les cheveux, vers le front, murmurant « Charlotte, je vous aime comme un fou. Voulez-vous être ma femme ?» Elle ne put répondre et, avec un geste d'effroi, se dégagea vivement. Justine Loriot, qu'il croyait au jardin, les avait surpris et, pâle comme une morte, les lèvres blêmes, se retenait à la porte pour ne pas tomber. Tout à coup, elle fit 2 ou 3 pas, comme pour se jeter sur Charlotte, le poing en avant, la fureur dans ses yeux sombres. Mais le boucher s'était jeté entre les deux femmes, protégeant de son corps d'athlète l'enfant qu'il aimait. Justine avait un éblouissement. « Oh !» dit-elle avec un cri de rage sourde, se sentant impuissante, affolée, par la révolte de son fils. « Holà !» Elle eut un mot grossier qui fit bondir Loriot. Charlotte, tremblante, baissant la tête, ne comprit pas. Mais le boucher l'entendit et, tout pâle de colère, la voix enrouée. « Retenez votre langue, maman, entendez-vous ? Retenez votre langue !» Justine Loriot avait une grande impressionnabilité, une sensibilité très vive, facile à s'exalter. Comme elle vivait retirée, tout à ses souvenirs et à sa tristesse, la moindre colère l'affectait profondément. Elle s'abandonnait sans réserve à l'impression qu'elle avait ressentie, l'analysant, pour ainsi dire, dans ses moindres détails et s'en pénétrant tout entière. On peut comprendre dès lors quel ravage causa dans son âme la découverte de l'amour que Loriot, ce fils qu'elle aimait à l'adoration, qu'elle défendait par jalousie de toute affection en dehors de la sienne, éprouvait pour Charlotte, pour une fille à laquelle elle avait voué une haine mortelle, tout de suite dès qu'elle avait appris son existence. Cette haine, toujours prête à s'épancher, devait se jeter avidement sur un incident qui était propre à en accroître l'énergie. Dès lors, son esprit fut sans cesse ramené vers la cause qu'il avait fait naître. Elle eut toujours devant les yeux le spectacle de Loriot et de Charlotte s'embrassant dans une étreinte passionnée. Ça avait été une révélation pour elle. Elle ne se doutait de rien auparavant. Maintenant, elle se rappelait 1000 détails. Ainsi, le père de Charlotte, un jour, lui avait volé ses illusions, avait abîmé sa vie en trompant la passion ardente qu'elle avait conçue, et c'était Charlotte, à présent, que le hasard jetait sur son chemin pour la rendre malheureuse, pour lui ravir ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Ah non, cela ne serait pas, elle se défendrait, par exemple. Mais Jacques, c'était tout ce qui lui restait de son bonheur. Que deviendrait-elle s'il se mettait à aimer Charlotte? Autant mourir tout de suite, puisqu'elle serait seule. Naboth était une fille de son crime. Elle ne pouvait reporter sur elle l'immense affection dont elle entourait Loriot. C'était une bataille qu'elle allait livrer. Elle la perdrait ou la gagnerait. Mais coûte que coûte, il fallait qu'elle la gagnât. C'était décidé, tous les moyens seraient bons. Les jours qui suivirent, Loriot vit à peine Charlotte. Il connaissait bien sa mère et il ne s'était pas trompé en la voyant blême et irritée. Il devinait que son amour pour la jeune fille ne lui plairait pas et qu'il s'y opposerait de toutes ses forces. Alors, comme son affection pour Justine était profonde, cette pensée l'attristait. Il se sentait irrésolu. Ses souvenirs d'enfance lui revenaient avec les bontés inépuisables, les caresses incessantes de sa mère. Et il devenait faible. D'abord, il avait craint un orage. Justine était très emportée. La colère bouillonnait en elle et elle s'échappait avec une force irrésistible. Comme elle se tint tranquille, comme elle avait l'air d'avoir oublié déjà, il fut rassuré. Et heureux d'en être quitte à ce prix, il n'osa s'ouvrir à sa mère et attendit, colorant à ses yeux sa propre lâcheté, du prétexte qu'il valait mieux faire naître une occasion meilleure. L'inertie de Justine, après cette alerte, n'était pas de l'indifférence, c'était dissimulation perfide. La vieille se cachait pour mieux surveiller, plus à l'aise et sans soupçon, son fils et Charlotte. Les journées se passèrent de la sorte, n'amenant aucun incident nouveau. Charlotte elle-même était redevenue calme. Comme elle s'était dérobée au baiser de Loriot, autant par pudeur que parce qu'elle venait d'apercevoir Justine, elle était persuadée que celle-ci croyait à une simple galanterie, un peu brutale de la part de son fils. La gravité de la mère par la suite et son indifférence froide l'entretinrent dans sa confiance. Et peu à peu revinrent les anciennes habitudes, un moment interrompues. Nabot y aida puissamment. Elle fut comme le rayon de soleil qui fait évanouir les brumes. Elle ignorait ce qui s'était passé, mais sa précoce intelligence d'infirme, toujours en éveil, lui disait qu'un nuage s'était abattu sur les amours naissantes de son frère et de Charlotte. Et elle semblait prendre à tâche de le dissiper. Parfois, Jacques, quand la boucherie ne le retenait pas, l'amenait promener dans le bois. Et comme elle ne marchait pas, et comme c'eût été gênant de la porter tout le trajet, Loriot avait acheté une petite voiture dans laquelle elle prenait place gentiment. Et tour à tour, Charlotte ou Loriot la traînaient par les chemins pierreux du bois de Meudon. Quand ils s'en allaient ainsi, la mère se mordait les lèvres et devenait toute blanche. Mais elle se contenait, ne disait rien, les laissait partir. Tantôt, par les bois, ils allaient jusqu'à Chaville. Là, ils s'arrêtaient, soit auprès de l'étang, soit auprès de la source. Et comme ils avaient eu la précaution d'apporter des viandes froides, ils mangeaient sur l'herbe, à l'abri du soleil, dont les cimes touffues des arbres, au-dessus d'eux, retenaient les rayons. Ils y restaient le plus longtemps possible, serrés l'un contre l'autre, heureux d'être ainsi, avec les yeux doux de Nabot pour témoin. Et quand il fallait rentrer, c'était une tristesse qu'ils ne s'avouaient pas, comme une crainte instinctive que leur inspirait la mère, comme le pressentiment cruel de toutes les souffrances qui les attendaient. Quelquefois, la tante Gélibert venait passer le dimanche à Meudon pour repartir le soir avec sa nièce. Alors il prenait le bateau, descendait la Seine jusqu'à Suresnes et dînait auprès du barrage. Loriot louait un canot et les promenait sur l'eau le soir pendant une heure. À la nuit, la tante Gélibert et Charlotte s'en retournait, pendant que Loriot et Nabot descendaient du bateau à Meudon. C'étaient des moments délicieux qu'ils passaient ainsi. La tante ne soupçonnait rien. Seule Denise était dans le secret. Elle assistait avec un sourire doux à leurs entretiens, s'amusait massicieusement à surprendre leurs mains qui se cherchaient pour s'étreindre avec un frisson à leurs yeux qui devenaient tout humides et s'alanguissaient en se rencontrant. Souvent, Denise enveloppait d'un même regard Charlotte et son frère, et cela paraissait à ceux-ci comme une caresse de plus. Quand, par hasard, au lieu de regagner directement Paris, Charlotte accompagnait Denise et Loriot jusqu'à la boucherie, au retour de ses promenades, ils étaient accueillis tous les trois par le silence glacial de la mer. Au salut craintif de Charlotte, elle répondait par quelques mots entre les dents, et quand la jeune fille quittait la boucherie, elle la suivait d'un coup d'œil sinistre. Depuis quelques jours, il lui fallait toute son énergie pour contenir la violence de sa jalousie. C'est qu'elle se voyait négligée par Loriot au fur et à mesure qu'augmentait l'amour de celle-ci pour la jeune fille. Maintenant, le jeune homme n'avait plus autant de prévenance pour elle. Certes, il n'aimait pas moins sa mère, mais il avait l'esprit tout préoccupé de Charlotte. Le matin, vers l'heure à laquelle elle arrivait d'habitude, il était rare qu'il ne fût point sur le seuil de la porte, la guettant pour l'apercevoir de plus loin. Et lorsqu'elle venait par la rue du Prince, il lui souriait en lui envoyant un bonjour de la main. Toute la journée, il rôdait autour d'elle, s'informant de sa santé, profitant du premier prétexte, ne laissant échapper aucune occasion de rester seule, quand elle était à la boutique, lui disant mille riens à voix basse en souriant. Le ton signifiait tout. Il prenait des airs mystérieux pour lui parler des petits détails de la boucherie. Elle répondait de même. C'était comme un besoin d'avoir des secrets. Mais Justine, bientôt, s'interposa. Elle avait une susceptibilité de caractère extrême. En outre, la jalousie maladive dont elle souffrait s'augmentait, nous l'avons dit, des soins, des caresses, des attentions inégalement partagées et dont la part la plus large revenait à la fille de Gélibert. Tout à coup, et sans que rien chez la vieille pût faire soupçonner un changement dans son esprit, elle se mit entière dans les conversations de son fils et de Charlotte. Un jour que Loriot était absent, elle dit à celle-ci « C'est sans doute parce que mon fils a une boucherie à son compte et une bonne clientèle que vous le recherchez. Mais ce n'est pas pour vous, ma petite, que ce soit dit une fois pour toutes. » Charlotte avait rougi jusqu'aux oreilles et avait balbutié. « Mais non, vous vous trompez, je n'ai jamais eu cette pensée-là. Alors tant mieux, je vous ai prévenu. » Quand Loriot rentra, Charlotte lui raconta ce qui s'était passé. Le brave garçon en fut atterré. Depuis longtemps, d'instinct, il devinait l'hostilité sourde de la mère. Mais il avait cru à une mauvaise humeur qui ne durerait pas. Maintenant, il ne pouvait plus douter. L'hostilité était évidente. La vieille allait s'opposer de toutes ses forces au développement de son amour pour la caissière. Charlotte lui demanda « Faut-il que je m'en aille? Oh, je ne veux pas être une cause de trouble dans votre famille. Oh, je ne veux pas surtout qu'il soit dit que je vous aurais brouillé avec votre mère. Ne vous tourmentez point tant que cela. » L'orage se dissipera bientôt. Mais puisque vous m'aimez, il faudra bien que nous nous épousions un jour ou l'autre. Ma mère ne voudrait pas me rendre malheureux. Ça finira, je vous dis. Il n'en croyait rien. Le lendemain matin, avant l'arrivée de Charlotte, il attira sa mère dans l'arrière-boutique, la prit sur ses genoux avec un gros rire et la faisant sauter comme une enfant. « Voyons, maman, dit-il, est-ce que ça peut être m'empêcher de t'aimer, l'amour que j'ai pour Charlotte ?» Mais elle se dégagea brusquement sans répondre. Loriot pâlit, poussa un soupir et resta pensif. Ce fut la guerre. Le boucher, faible et bon, tiraillé entre la crainte qu'il avait de sa mère et l'affection qu'il portait à la jeune fille, était obligé de se cacher, d'inventer des expédients lorsqu'il voulait se trouver seul un moment avec celle qui avait pris son cœur. Son amour s'augmentait, comme cela arrive presque toujours, de toutes les difficultés, de tous les obstacles qu'il rencontrait. Dans la boucherie, illuminé d'un rayon de gaieté quand était venue la caissière, maintenant une grande tristesse régnait. Charlotte, la vieille et Loriot travaillaient silencieusement. Jamais, du reste, Justine n'adressait la parole à la fille de Gélibert. Quand celle-ci lui parlait, était obligée, en l'absence de Jacques, de lui demander un renseignement, elle répondait par quelques monosyllabes à peine distincts en détournant la tête. Et la rancœur et la haine de la paysanne reparaissaient dans les détails les plus intimes, dans les choses de la vie les plus vulgaires. Ainsi, à table, c'était elle toujours qui servait. Elle affectait, quand elle s'était occupée de Loriol, de Nabot et d'elle-même, d'oublier Charlotte, à laquelle souvent venaient de grosses larmes, devant toutes ces petites injures dont elle souffrait. Mais Loriot veillait, réparait vite les oublis volontaires de la vieille. Un serrement de main furtif sous la table consolait les jeunes gens, et le doux sourire des yeux de Denise effaçait les dernières traces des larmes. Elle ne s'était jamais occupée des comptes de la boutique. Avant la venue de Charlotte, c'était Nabot qui tenait les livres. Et maintenant, sous le moindre prétexte, elle vérifiait si les marchandises achetées ou vendues avaient été inscrites. Elle était prise de colère, froide, à la plus légère omission. Charlotte souffrait sans se plaindre, parce qu'elle redoutait d'être chassée de la boucherie et d'être éloignée de Loriot. Elle redoublait de zèle et de vigilance. Mais rien ne devait vaincre la malveillance de la mère. Elle avait deviné ce qui blessait le plus Charlotte. C'était de croire que son amour pour Loriot n'était qu'une convoitise de sa petite fortune. Aussi revenait-elle souvent sur les allusions au sentiment de basse cupidité qu'elle supposait à la jeune fille. Un jour, poussée à bout, Charlotte répondit « Et que cela serait, madame Loriot ? Ah, vous avouez donc, petite éhontée !»« Non, je n'avoue pas parce que je mentirais. Mais si Jacques m'épousait, je lui apporterais bien en dot la valeur de sa boucherie, savez-vous bien ? Oh, dot effrontée ! Vous iriez les pieds nus sans votre tante qui se retire pour vous le pain de la bouche. Si vous dites cela, madame Loriot, c'est que vous ignorez que du procès de mon père, une fois ses affaires terminées, il m'est revenu 5 ou 6 000 francs que ma tante a fait valoir, dont elle a accumulé les intérêts afin que le jour où je me marierai, je puisse apporter à mon mari une petite dot qui dépasse aujourd'hui 10 000 francs. Voilà ce que vous ne saviez pas, madame Loriot, et ce que ma tante Gélibert, sans doute, aura oublié de vous dire. Vous le voyez, il ne faut pas me reprocher d'avoir en tête de mauvais calculs si j'écoute votre fils. » Prise au dépourvu, ne trouvant rien à répondre, la vieille sentait une sourde irritation lui monter au cœur, une folle envie de se jeter sur l'enfant et de la battre. Mais à ce moment, comme Loriot rentrait, elle se contint. Les 2 ou 3 jours qui suivirent, elle garda un silence farouche, méditant, cherchant dans sa tête une méchanceté nouvelle. Toutes ces idées lui faisaient oublier Naboth, qu'elle négligeait depuis longtemps. Que lui apportait à présent la petite infirme? Elle ne songeait plus guère à s'irriter des marques d'affection dont le grand Loriot continuait d'entourer sa sœur. Elle avait un autre ennemi à combattre, plus dangereux, Charlotte. Ce fut donc un calme relatif dans la vie de Denise, et que troublèrent seulement les souffrances de Loriot, dont l'infirme, avec la vive pénétration de son intelligence, devinait le secret. Un instant, Justine songea à chercher une femme à son fils, une femme qu'elle choisirait elle-même, qui serait assez riche pour le tenter, assez jolie pour être aimée et faire oublier la caissière. Elle fit même des démarches dans ce but. Mais tout à coup, elle laissait ça. Une réflexion lui revenait que sa jalousie lui inspirait. Que Loriot aime Charlotte ou qu'il en aime une autre, est-ce qu'elle, la mère, n'en sera pas moins délaissée? Certes, l'amour de son fils pour une étrangère lui semblerait toujours moins odieux, moins insupportable que celui qu'il éprouvait pour la fille du fermier Géribert. Mais dans le rapprochement de ces deux corps, il y avait quelque chose qui l'épouvantait. Mais sa haine contre Charlotte une fois apaisée, la jeune fille une fois partie, est-ce qu'elle retrouverait en entier pour cela l'affection de Jacques? Est-ce que sa jalousie étrange, qui n'était en quelque sorte que le paroxysme de son amour maternel, n'aurait plus sa raison d'être? Est-ce qu'elle n'en occuperait pas moins la place la plus petite dans le cœur de Loriol, alors que cette place, elle l'eût voulu tout entière? Divers incidents, arrivés coup sur coup, vinrent tendre encore la situation et la rendre plus difficile. À la fête annuelle de Meudon, Loriot, sans prendre l'avis de Justine, invita la tante Gélibert et le soir, il s'arrangea de telle sorte que la mercière conduisit Charlotte au bal. Il dansa avec la jeune fille jusqu'à l'heure du dernier train et reconduisit à la gare la tante et la nièce. Même la première fois, il prit un billet pour Paris afin de rester avec Charlotte une demi-heure de plus et il revint à pied à Meudon pendant la nuit. C'était le premier acte grave de révolte qu'il commettait contre la toute-puissante autorité de sa mère dans la maison. Or, cette nuit, lorsqu'il revint à la boucherie, la vieille n'était pas couchée. Elle savait Loriot au bal avec Charlotte. Elle attendait. Quand il rentra, un peu intimidé, elle l'accueillit avec un regard où brillait tout le ressentiment qui emplissait son âme. Elle dit seulement d'un ton sec, « La jolie conduite, rentre maintenant à 3 heures du matin. » Après avoir passé une partie de la nuit à danser avec des dévergondés. Oh, c'est ce qui arrive quand on délaisse sa mère. » Il ne répondit rien, bien qu'il eût tressailli en entendant le mot de dévergondé. Il passa devant elle et regagna sa chambre. Il dormit peu du reste, et à l'aube, quand il se leva, il remarqua que sa mère ne s'était pas couchée. À 8 heures, Loriot était encore occupé à l'abattoir et elle attendit Charlotte sur le seuil de la maison. Au moment où la jeune fille arriva, « C'est vous qui avez retenu mon fils jusqu'au matin ?» dit-elle. « Oui, c'est moi, » dit bravement Charlotte. « Mais vous avez une belle conduite, je vous en félicite. » « J'étais avec ma tante, vous le savez bien. Oh, votre tante vaut pas mieux que vous !» Charlotte, craignant les éclats de la colère de la vieille et sa violence, ne répondit plus et entra dans la boutique, son panier à la main. Mais Justine la suivait, le dos courbé, la tête en avant, les yeux brillants. Non, elle vaut pas mieux, entendez-vous, car elle vous aide à détourner mon fils. Vous traînez toutes les deux derrière lui, sans jamais le quitter. Un beau jour, la police vous ramassera, comme elle ramasse les femmes perdues au coin des rues. Et s'il faut qu'on l'avertisse, la police, eh bien, c'est moi qui l'avertirai. Elle se tut, puis reprit, irritée du silence dédaigneux de Charlotte, furieuse de voir qu'elle ne pouvait fâcher la jeune fille. Ah, vous croyez peut-être que je céderai et que je donnerai mon fils à une poitrinaire comme vous, qui n'a pas plus de 6 mois à vivre, allez, plus souvent. Et elle eut un rire féroce. Charlotte se détourna. Elle pleurait. La vieille le comprit aux sanglots qui secouaient l'enfant de la tête aux pieds. Elle lui prit le bras, la força de le regarder. « N'as-tu donc point de cœur de ne pas me répondre ?» Mais déjà les larmes de Charlotte s'étaient séchées. « J'aime Loriot, dit-elle à voix basse. Tout ce que vous pourrez dire, tout ce que vous pourrez faire contre lui ou contre moi, ne m'empêchera pas de l'aimer. » Elle relevait la tête d'un air de défi. Comme la mère avait élevé la voix, Loriot parcourut. « Qu'est-ce qui se passe ? » dit-il. Les deux femmes étaient très émues. « Savez-vous ce que votre mère vient de me dire, Jacques ?
Quoi donc, encore une méchanceté ?
Elle m'a comparé à une mauvaise femme et m'a menacé de la police.
« Oh !» dit Loriot avec un cri.
Justine baissait la tête devant son fils. Charlotte reprit. « Ce n'est pas tout. Elle m'a prédit que je ne vivrais pas 6 mois maintenant et qu'elle ne consentirait jamais à voir son fils épouser une poitrinaire. » Il y eut un silence. Jacques était consterné.
« Je ne vous croyais pas capable de tant de mauvaises pensées, ma mère. Puisque vous ne craignez pas de dire toutes ces choses à Charlotte, moi je n'ai pas d'autres précautions à prendre vis-à-vis de vous. Eh bien, je vous le déclare, que vous le vouliez ou non, Charlotte sera ma femme. Et si vous vous faites une démarche auprès de la police, je quitterai pour toujours la boucherie. »
Justine était tombée sur une chaise anéantie. Jacques emmena Charlotte dans le jardin pour la consoler, la remettre un peu avec les bonnes paroles que lui dictait son cœur. C'était des conseils surtout qu'il lui donnait.
« Voyez-vous, disait-il, quelles que soient les méchancetés et les cruautés de ma mère, n'y prêtez point d'attention. Courbez la tête, attendez que l'orage passe, je vous l'ai dit. Si vous lui résistez, cela l'aigrira et la rendra plus cruelle encore. »
Charlotte promit de suivre ses conseils et de ne pas écouter sa fierté qui se révoltait aux paroles de la vieille. Ces scènes se renouvelaient fréquemment. Mais bientôt, la mesure allait être comble. En l'absence de Loriot, qui était parti acheter quelques bestiaux dans les environs, Justine, poussée par on ne sait quelle rage jalouse, entra dans la chambre de son fils. Là, elle passa une inspection minutieuse. Elle ouvrit les tiroirs, les visita, trouva des rubans, des chiffons qu'elle reconnut pour appartenir à Charlotte, que la jeune fille avait sans doute donné comme un gage d'amour au boucher et que celui-ci conservait précieusement. Elle les mit en pièces brutalement, les jeta par la fenêtre sur un fumier dans le jardin. Après les rubans et les chiffons, ce fut le tour de la photographie de la petite caissière. Elle la déchira en 1000 morceaux. Puis elle redescendit, soulagée déjà par cette première vengeance. Le soir, avant dîner, Loriot eut besoin dans sa chambre. Il y monta, il resta quelques minutes. En bas, Justice l'attendait, un sourire méchant sur les lèvres. Quand il redescendit, il était blême. « Vous êtes venu chez moi, dit-il. Vous avez fouillé dans les tiroirs de ma commode.
Vous m'avez pris des choses auxquelles je tenais beaucoup. Vous allez me les rendre tout de suite. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ne mentez pas. Tenez, voici vos ciseaux que vous avez oubliés et que j'ai retrouvés sur la table. Vous voyez bien qu'il est inutile de nier. Mais soit, je ne nie pas. Et qu'avez-vous fait des choses que vous m'avez prises? Je les ai déchirées. C'est pas possible. Montrez-moi les morceaux. Je les ai jetés. Est-ce que tu crois par hasard que je les gardais comme des reliques, des chiffons? Il y avait autre chose que des chiffons. Non, rien eu d'autre. C'est encore un mensonge. Il y avait une photographie. Eh bien, si cela, j'ai fait de la photographie, ce que j'ai fait des chiffons. Où l'avez-vous jeté? Par la fenêtre, tu retrouveras les morceaux sur le fumier. Sur le... Le grand Loriot n'acheva pas. L'étonnement, l'indignation, la douleur arrêtèrent les paroles qui montaient à ses lèvres. Seulement, il eut une exclamation. « Oh, maman! Maman !» dit-il. Il recouvra pourtant son sang-froid. « Ma mère, dit-il, vous ne m'aimez donc plus ?»« Si !» « Oh, je ne peux pas le croire. Si vous m'aimiez, vous éviteriez de me faire autant de mal. Mais quel mal t'ai-je donc fait ?»« Mais pourquoi êtes-vous si cruel envers Charlotte ?»« Cette fille ne te convient pas. Mais elle est douce et bonne et travailleuse avec cela. Vous le savez bien, vous la voyez tous les jours. Vous pouvez en juger comme moi. Mais qu'est-ce que vous avez à lui reprocher ?» Ne t'aime pas. Mais quel intérêt a-t-elle à faire semblant de m'aimer? C'est qu'elle voudrait être la dame ici à ma place. Vous vous trompez, ma mère. Elle ne demande qu'à toujours vous aider, et moi aussi, dans les travaux de la boucherie. Elle n'a jamais eu l'ambition que vous le supposez. Rien, ni dans ses paroles, ni dans sa conduite, ne peut justifier vos craintes, comme rien ne peut expliquer non plus votre répulsion. Vous avez vu comme elle est d'une humeur égale. Elle était triste d'abord en arrivant à la boucherie, parce qu'elle était malade, mais elle est de jour en jour plus disposée à chanter et à rire au fur et à mesure que la santé lui revient. Si elle souffre encore à l'heure qu'il est, c'est plutôt moral et ces souffrances-là. C'est vous qui les causez avec votre dureté pour elle. Ah, vous avez été plus d'une fois cruel et injuste à son égard. Le mal que vous lui avez fait, je le ressentais autant, peut-être plus qu'elle. Si pourtant vous aviez une raison d'agir ainsi, une raison que je comprendrais pour qu'il me fût permis de vous excuser, mais non, vous n'en avez pas. Je suis obligé de me dire, quand je songe à toutes les duretés qui sortent de votre bouche à son adresse, que ce que vous faites, c'est uniquement par méchanceté. Et je vous assure que pour moi, qui vous respecte et vous aime tant, malgré tout, c'est bien triste de penser ces choses-là, de celle qui est sa mère. Et je ne veux pas de cette fille-là pour ma bru. Je l'ai dit, je ne le répéterai plus. Elle ferait le malheur de ton ménage, comme elle met dès maintenant le trouble dans notre maison. » Loriot voulut répliquer. Il voulut dire que ces questions, qui naissaient à toute minute, c'était Justine qui les engendrait. Il voulut rappeler aussi à sa mère combien toute sa vie elle avait été injuste. Elle avait commencé par haïr de toutes ses forces cette pauvre innocente nabote, parce qu'elle était infirme. Les douceurs, les caresses, les tendresses maternelles avaient été pour lui, Loriot, grand et fort, au détriment de la petite, qui était faible et à laquelle un peu plus d'affection eût fait tant de bien. Et après avoir haï la botte, c'était Charlotte maintenant sur laquelle elle reportait son étrange besoin de haïr. Cette haine, il ne la comprenait pas, lui, Loriot. Bon et naïf, il lui semblait qu'il était bien plus facile d'aimer. Il voulut dire cela, mais il n'osa. La colère froide et silencieuse de sa mère lui causait toujours une impression pénible. Il se tut. Alors Justine enhardie. Bien, voici ce que j'ai décidé, dit-elle. Charlotte ne restera pas plus longtemps à la boucherie. Dès ce soir, elle rendra ses comptes à Nabot, qui prendra soin des livres comme autrefois. Elle restera chez Saint-Ange Gélibert, à Paris. Ah non, ma mère, vous ne ferez pas cela. Pourquoi ? Parce que je ne peux plus vivre sans Charlotte. Et la renvoyer d'ici, ce serait me forcer, moi aussi, à vous quitter, à laisser là nos affaires, à tout abandonner pour la suivre. Je ferai comme je l'ai dit. Nous verrons si tu auras le courage de choisir entre moi et cette fille et de l'éloigner de ta mère. » Loriot, désespéré, s'enferma dans sa chambre. Sans perdre une minute, Justine mit sa menace à exécution. Elle passa dans la boutique où travaillait Charlotte. En la voyant entrer, la jeune fille frissonna. « Oh, elle va m'apprendre une mauvaise nouvelle !» Telle fut la pensée qui lui vint. « Mademoiselle Charlotte, dit la vieille, à partir de demain, vous n'en mettrez plus les pieds chez nous. Je vous le défends. Nous n'avons pas besoin ici d'une fille qui enjôle les garçons. Nabot est au courant des affaires de la boucherie. Vous lui montrerez vos livres pour qu'elle reprenne la suite des écritures. Et j'écris à votre tante pour la prier de vous garder à Paris. C'est dans votre intérêt. À la ville, vous aurez plus de chances qu'à Meudon de faire un beau mariage. Vous m'avez entendu ?
Oui, madame, dit la pauvre fille, dont le front rougi était si baissé qu'il touchait presque la broderie à laquelle elle travaillait.
« Oui, j'ai entendu. J'espère que vous obéirez. »«
Oui, je suis chez vous. C'est votre droit de me chasser. » »«
Du reste, la moindre tentative que vous feriez pour revenir, surtout pour revoir Jacques, vous trouveriez la porte fermée. Elle vous prévient, il y a un commissaire de police à Meudon. »
« Vous n'aurez pas besoin de lui, madame Loriot. Vous ne me reverrez plus. »«
Tant mieux, » dit l'implacable vieille.
Un peu surprise et comme apaisée par cette soumission humble à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle avait craint une révolte. Elle sortit, laissant Charlotte seule avec Denise qui avait assisté à cet entretien. Charlotte, n'ayant plus besoin de se contenir, éclatait en sanglots.
« Que vous devez souffrir, » dit l'infirme à voix basse. « Oh oui, je suis malheureuse et votre mère est méchante. »
Ce fut le seul reproche qu'elle se permit. Certes, bien des amertumes lui montèrent aux lèvres, mais en les laissant échapper, elle ne voulait pas affaiblir le respect de Nabot pour sa mère. Elle essuya ses larmes, et tout de suite, alors qu'elle avait encore les yeux rougis et troublés, elle se mit à la besogne. Denise s'était rapprochée d'elle. Toutes deux travaillaient. Quelquefois, elles s'interrompaient, leurs regards se croisaient. Alors Nabot, avec quelques bonnes paroles, cherchait à faire entrer des consolations dans l'âme de son amie éplorée.
« Ne vous désespérez pas trop, disait-elle. Mon frère vous aime. Il ne cessera pas de vous aimer. Il s'arrangera bien de façon à vous aller voir à Paris. Nous vaincrons la résistance de ma mère, espérez. Il faut attendre tout du temps. »
Mais Charlotte hochait la tête.
« Non, murmurait-elle, c'est fini, Denise. Jamais Jacques ne m'épousera. Jamais votre mère ne le lui permettra. Et moi, je ne voudrais jamais non plus entrer dans votre famille, malgré votre mère. Je serais coupable. Votre mère aurait raison de me haïr. Et puis cela nous porterait malheur dans notre ménage, à notre frère et à moi. Je vous plains, Charlotte, parce que je vous aime comme si vous étiez ma sœur. »
La jeune fille ne répondit pas, mais baisa deux fois la botte sur le front en lui serrant les mains de toutes ses forces. Quand les livres furent mis en ordre,
Charlotte rangea dans son panier à ouvrage les objets qui lui appartenaient et se leva pour partir. Elle avait le cœur serré et le cercle bleu qui d'ordinaire entourait ses yeux semblait s'être élargi démesurément. « Adieu, » dit-elle à la botte, qui ne pouvait plus se retenir et pleurait. « Dites bien à votre frère que je ne l'oublierai jamais, que je l'aimerai toujours, mais qu'il faut qu'il obéisse à sa mère. » Elle fit un pas pour sortir, mais elle s'arrêta tout à coup. Elle avait pâli. Devant la boucherie, immobile, les mains fourrées jusqu'au coude dans les poches de sa longue blouse, Loriot attendait. Lui aussi était pâle. Les coins de sa bouche étaient tirés. « Oh, je sais tout ce qui vous est arrivé, » dit-il. « Je sais que ma mère vous a chassé et que vous partez pour ne plus revenir. J'espère bien que vous allez me permettre de vous reconduire à la gare. »
« Oh non, Jacques, ça ne se peut pas. »«
Et qu'est-ce qui m'en empêche ?»«
Votre mère, d'abord. »« Et puis est-ce que tout ne doit pas être fini entre nous, à partir d'aujourd'hui ?»
Elle tremblait en parlant. « Alors donc, vous ne croyez pas ce que vous dites, » fit le boucher. Il avait élevé la voix de manière à se faire entendre de Justine, qu'il apercevait au milieu de la boutique. La vieille apparut à son tour.
« Jacques, cette fille a raison. Tu dois la laisser partir seule. Il est inutile que tu fasses du scandale dans Meudon. »«
Non, je l'accompagnerai, je le veux. »«
Et moi, » dit la mère sèchement, « moi je te dis de rester, entends-tu ?»
Pour toute réponse, Loriot mit le bras de Charlotte sous le sien et entraîna de force la jeune fille, la portant presque tant elle était faible. Et du seuil, la paysanne, raide dans sa guimpe noire, immobile comme si tu t'étais pétrifié, les vit partir. Et quelques mots sans suite, qu'elle ne prononçait pas, arrivaient à ses lèvres, et sa figure sèche et ridée semblait encore vieillie.
« Le malheureux, le malheureux !» dit-elle à deux reprises.